Oh Dieu de grâce. Alléluia. Peut-être les mots nous manquent, mais est-ce qu'on pourrait juste simplement le faire ensemble, de dire merci à Jésus? On le fait tous ensemble. Nos voix comme se complétant, comme un bon parfum pour notre Dieu. Là, avec les faibles mots qui sont les tiens, peut-être ce sera un Jésus, je t'aime. Peut-être un merci qui vient du fond de ton cœur, mais viens, on le fait ensemble. Alléluia. Seigneur, nous voici tous ensemble pour te dire merci. Merci simplement pour l'amour que tu as, ta patience, ta compassion, ta tendresse, ta douceur, Seigneur. Car quand tu nous cherches, tu vas jusqu'au bout et tu te révèles à nous. Seigneur, merci. Merci pour cet amour. Jésus, merci pour le don de la croix. Merci pour ta résurrection, car tu as vaincu la mort et le péché. Tu as vaincu toute maladie. Tu as mis à tes pieds toute puissance de la domination de l'ennemi, Seigneur. Tout esprit mauvais est sous tes pieds. Tu as tout vaincu, tout remporté. Oh, pour toutes ces raisons, nous te disons merci. Oh, pour ta présence dans nos vies. Oh, pour ce matin, pour mes frères et sœurs, je te dis merci. Oh, pour cette famille de Dieu que tu nous donnes, je te dis merci. Seigneur, il y a tant de sujets auxquels nous pouvons te dire merci. Alors reçois simplement et vois nos cœurs, Seigneur, ce matin. À toi la gloire et l'honneur, la majesté, mon Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, Jésus. Oh Seigneur, tu es bon. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Et peut-être quelqu'un ne le saurait pas, mais Jésus est là au milieu de nous. Qui peut l'attester ce matin? Il sait que Jésus est là. Amen. Il y a plusieurs choses qui nous font dire que Jésus est là. Non pas parce que Dieu aime honorer une adresse, mais Dieu aime honorer des rassemblements et des rendez-vous. Dieu a de la mémoire, il aime se souvenir qu'il y a aux 4 boulevards de Pibrac à Colomiers comme au 36 avenue Charles de Gaulle à l'Île-Jourdain, comme ça vous avez l'adresse, les adresses, pardon, il y a des gens affamés, assoiffés de Jésus qui ont hâte de le rencontrer. Est-ce que c'est ton cas ce matin? As-tu envie de rencontrer Jésus? Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Si tu peux me lancer la diapo, s'il te plaît, Chantal. Ce n'est pas toujours le cas. La vérité, c'est que Jésus est là, et parfois on fait comme s'il ne l'était pas. Jésus est là, mais on vit, et on croit, et on avance, on fait des choix, on réagit, comme si Jésus n'était pas au milieu de nous. C'est vrai ou pas? On se le confesse, on est en petit comité. On vit dans notre quotidien, dans notre intimité, dans notre couple, dans notre foyer, comme si Jésus n'était pas au milieu. C'est vrai ou pas? Ça nous arrive? Il n'y a que votre pasteur. Bon, ça ne me concerne que moi. Je vais me prêcher à moi-même, alors. Cette déclaration, le Seigneur est ici, et je ne le savais pas. Peut-être que c'est la tienne ce matin. Peut-être que tu es en ce lieu pour la première fois, les premières fois. Peut-être que tu n'as pas rencontré Jésus en tête à tête, en face à face. Quand tu auras quitté ce lieu, il faut que ça soit le cas. Alléluia! Dieu t'a donné rendez-vous ce matin. Non pas pour que tu passes un bon moment chauffé plus ou moins dans une salle où plus ou moins on va m'accueillir ou plus ou moins je vais être accueilli, ok? Il y a plus que cela, il y a Jésus est au milieu de nous, Jésus est présent en ce lieu par son esprit. Pourquoi je l'atteste? Parce que là où deux ou trois sont réunis, Dieu est au milieu. Quand un peuple le loue, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et Dieu se laisse trouver même par ceux qui ne le cherchent pas. Ça veut dire à quel point Dieu te cherche, toi, nous cherche, nous. Je ne le savais pas. Il a fallu un début pour Jacob. Jacob, c'est le fils de son père et le petit-fils de son grand-père. Ouais, vous avez appris plein de choses ce matin. C'est fou, hein? Oui, c'est vrai. Mais ça a tout son sens, parce que autant son père que son grand-père ont dû rencontrer Dieu face à face. Mais lui, il ne l'a pas fait. Lui, il vit sur les acquis de ses parents. Lui, il vit avec un Dieu qui, peut-être c'est la religion qui lui a dicté, peut-être c'est la culture qui lui a dicté, et peut-être c'est ton cas aussi ce matin. La culture et la religion de tes parents, celle que tu as héritée dans ton pays, t'a dicté qu'il y avait un Dieu. Mais l'as-tu rencontré en tête à tête? Et est-ce que vous êtes prêts à ce voyage? Parce que quand on rencontre Jésus face à face, quand on voit Dieu face à face, il y a des choses qui changent. Notre vie ne peut pas rester indemne. Et ce matin, c'est un exemple de plus. Nous sommes là dans un culte, un dimanche matin, comme celui de la semaine dernière, comme celui de la semaine prochaine, pour ceux qui seront encore avec nous. Oui, parce qu'on ne sait pas, hein, le Seigneur il peut nous reprendre quand il veut. Je veux faire peur à personne. C'est le cycle de la vie. Bon, je finis là. Mais ne nous sommes-nous pas habitués à sa présence ? Le Seigneur est ici. Et peut-être tu ne le sais plus. Ou tu ne le sais pas. Ou tu l'as oublié. Ou tu ne ressens plus rien. Et on n'est pas là dans le ressenti, l'émotion. Et je ne veux pas parler à vos émotions. Même si Dieu vous a construit avec de merveilleuses émotions. Mais c'est par la foi que nous devons nous approcher de Dieu. Celui qui croit qu'il y a un Dieu doit venir auprès de lui par la foi. Je paraphrase ce verset du Nouveau Testament. Mais dans le contexte, Jacob a fait cette déclaration dans un contexte particulier. Jacob est en fuite, il a peur pour sa vie. Jacob est dans cette obscurité, dans cette solitude, dans cet inconfort d'une vie en errance. Lui qui était bien chez papa, maman. Lui qui a toujours été choyé par sa petite maman parce qu'il y avait une différence d'amour dans la fratrie et dans le foyer. Foyer dysfonctionnel peut-être un petit peu, on y reviendra tout à l'heure. Mais Jacob, il a peur pour sa vie, il est perdu. Et le texte que nous allons lire commence à arriver à un certain endroit. Peut-être tu es arrivé dans ta vie à un certain moment. Mais il ne se passe rien de transcendant. C'est le 23 novembre, pour certains c'est une date comme une autre, pour d'autres c'est la fête. Je l'ai placé. Je vous laisse deviner. Cette date, elle peut... Voilà, le 23 novembre 2025, c'est peut-être un dimanche comme un autre. Et peut-être tu t'es habitué à vivre les jours qui se suivent sans rien t'attendre à plus qu'un jour, demain, ce sera lundi. Mais vous savez qu'il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Arrivé en un certain endroit, si tu peux m'afficher le texte, arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller. Je puis vous rassurer que cette pierre était le meilleur coussin à mémoire de forme que la terre ait porté. Pour ceux qui ont déjà essayé, vous avez dû avoir des problèmes. Et il se coucha à cet endroit. Jacob fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, du nord au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla et dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. » Cet endroit, la maison de Dieu, son nom, c'est Bethel. Bethel. Ce n'est pas la tente de Dieu, ce n'est pas le couloir de Dieu où Dieu viendrait en passant ou de manière éphémère et provisoire. C'est la maison, littéralement là où il demeure, là où il y a son adresse. Est-ce que ta maison, ton cœur, ta vie tout entière a changé de propriétaire ? Est-ce que le temple que tu es devenu en rencontrant Jésus face à face est devenu la nouvelle adresse de Dieu où il demeure. Pas une résidence secondaire ou de vacances. Ce n'est pas un Airbnb que tu dois être. Tu dois être l'adresse principale où Dieu demeure. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que Dieu demeure dans ton quotidien ? Est-ce que Dieu est invité dans tous les aspects ? Le temps du repas, ça on y pense, hein. Merci Seigneur pour ce repas. Jésus est là. Mais quand tu vas au travail, quand tu fais face à ce collègue, vous savez, celui qui vient toujours dire « Au fait, tu es en retard sur tes dossiers », celui qui vient raconter des dossiers comme ça à la machine à café, il vient raconter sur les autres tout le temps et il vous met une tête comme ça. Vous savez, ce patron exigeant, est-ce que Dieu est invité dans ce quotidien-là ? Est-ce que Dieu est invité quand, face au médecin, on a posé le diagnostic d'une maladie auto-immune, d'une maladie qu'aucun médecin ne peut guérir ? Est-ce que Dieu a été invité ? Est-ce que Dieu est là ? Puisqu'il n'est pas normalement invité, il demeure, il est chez lui. Est-ce que Dieu est dans ton quotidien? Est-ce que Dieu est pour les plus jeunes? Il est avec toi au collège, au lycée? Est-ce qu'il est avec toi à l'école? Est-ce que Dieu est avec toi dans ton couple? Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi chaque jour? Jacob ne le savait pas, mais Dieu s'est engagé en disant « Mais je serai avec toi. » Je serai en fait, je suis depuis ta naissance, avant même que la terre fût formée, j'avais mes regards sur toi. Quand tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, je t'aimais déjà. Ce sont des versets que je cite, des choses qu'il aurait pu dire à Jacob. Mais Jacob ne savait pas que Dieu était là. Ici, c'est juste quatre murs, un toit, de la moquette. Je ne commente pas trop la moquette. Mais ce qui fait la différence, si je peux attester que Dieu est là, c'est parce que toi et moi et nous tous, on est là en ce lieu pour lui. Mais ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que l'esprit de religiosité vient nous faire oublier ces choses-là. L'habitude, les coutumes, les redondances, tout ce qui pourrait s'inviter comme un rendez-vous chronique vient creuser cet oubli, cette lassitude de « oui, bah, je vais à l'église ». J'ai peur que mon pasteur m'appelle en me disant « mais où étais-tu dimanche ?» Ah, on peut le faire de manière différente. Hein. Mais à Bethel, Dieu est là. À Bethel, Dieu n'est pas juste là, il agit. Dieu est là pour agir dans ta vie maintenant. Dieu n'est pas juste là pour dire « Hey, t'as vu, je suis là. Bon allez, à la fois prochaine. » Ça suffit à quelqu'un, ça? Tu viens, t'es là, ah, Dieu t'a dit, il était là, ouais, gloire à Dieu. Et puis rien n'a changé. Ton cœur n'a pas changé. Tes pensées n'ont pas été régénérées. Tes problèmes sont toujours là sur ton dos, t'écrasant sous de lourds fardeaux. Alors que Jésus t'invite à tout délaisser à la croix. Pourquoi ne réagis-tu pas dans la présence de Dieu? Pourquoi ça ne transcende pas tes émotions? Oui, je parle des émotions, parce que quand Dieu est là, ça doit nous amener à sortir de notre zone de confort, de nos considérations, de contrôle et d'orgueil naturel. Quand Dieu est là, les choses bougent. Je vois des timides se transcender quand un ballon est frappé entre deux cages. Mais quand Dieu est là, ils sont au contrôle d'une émotion. Oui, Dieu est là, gloire à Dieu. Un amen profond et silencieux. C'est vrai, je ne suis pas là pour dire qu'il faut faire du bruit. Mais normalement, il y a une différence entre ce que tu es et quand Dieu est là. Quand Dieu est là, ça doit te bousculer. Quand Dieu est là, tu ne peux pas rester sur un échec. C'est le Dieu de victoire qui est là. Quand Dieu est là, tout doit changer. Tout doit changer. Mais quelle sera ta réaction? Comment vas-tu réagir maintenant? L'esprit qui est au milieu de nous n'est pas un esprit de timidité. Un esprit qui veut te donner de la force pour réagir, pour entreprendre, pour prendre position. Quelle position vas-tu prendre ce matin? On n'a pas tous les mêmes vies, j'en ai bien conscience. Peut-être quelqu'un va ce matin abandonner un péché. Gloire à Dieu. Quelqu'un va se réconcilier avec son épouse. Alléluia! Peut-être quelqu'un va décrocher. Il n'est pas sorti celui-là. Décrocher son téléphone cet après-midi pour appeler son enfant qui est au loin et avec qui tu n'as pas parlé depuis tant de mois. Quand l'esprit est là, il y a quelque chose qui se... Il est dit que l'esprit se mouvait à la surface. Il y a un mouvement, un dynamisme, une dynamique de Dieu. Quand Dieu est là, il y a quelque chose qui vient frapper à la porte de ton cœur. Et Dieu ne prend pas le bélier pour enfoncer la porte, sois rassuré. Si quelqu'un serait dans la retenue, Dieu y frappe doucement, délicatement, et il t'appelle par ton nom. Mais si tu entends sa voix, si tu entends sa voix, est-ce que tu as débouché tes oreilles pour entendre la voix de Dieu te parler? Parce qu'à cette condition-là, tu as deux options. Soit tu as la main sur la poignée, tu as entendu sa voix et on va rester voilà, derrière et séparé d'une porte. Ou alors tu ouvres et Jésus rentre. Alléluia. Je m'adresse autant à ceux qui qui n'auraient pas vécu une rencontre avec Jésus, mais je m'adresse aussi à tous les chrétiens qui ont mis Jésus à la porte. C'est facile de mettre Jésus à la porte. Quand on ne sait plus s'il est là dans notre quotidien, Jésus est à la porte. Quand dans nos joies, quand dans nos peines, on n'a plus recours à l'Éternel, Jésus est à la porte. Quand il est passé à la deuxième place de ma vie, Jésus est à la porte. Mais Jésus ne fuit pas. Jésus ne se désespère pas. Jésus ne se lasse pas. Et il ne se lassera jamais. Et il persévérera toujours à frapper à la porte de ton cœur pour te dire « Mais laisse-moi entrer !» C'est ce qu'il a fait dans la vie de Jacob. Jacob, vous le savez peut-être pour les lecteurs de la parole de Dieu, c'est celui qui a été nommé comme étant un filou, celui qui s'en sort toujours, celui qui arrive à la force de ses mains pour voler même une bénédiction qui ne lui était pas réservée. Il a volé le droit d'aînesse par un stratagème. Double stratagème. Aidé de sa petite maman, que Dieu bénisse les mamans, quand elles sont de bons conseils. Mais quelle sera ta réaction ? Dans cette rencontre avec Dieu, vas-tu t'engager ? Parce que Jacob, à ce moment précis, quand Dieu vient lui parler en songe, ce n'était pas juste pour lui dire hey, « Hé, Jacob, je suis avec toi. Allez, yes, bon voyage. Fais ce que tu veux, de toute façon, je recollerai les morceaux. » C'est ça que Dieu veut dire ce matin. T'as mal, t'es malade, t'es oppressé. Ah, bon, et bon courage. Dieu parle ainsi. Oh. Dieu, c'est le libérateur. Il a attendu des centaines d'années avant que le peuple crie vers l'Éternel. Et Dieu aura cette compassion d'entendre les cris de son peuple et dire « ça suffit maintenant, l'oppression égyptienne s'est terminée ». Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivrera peut-être. Ah pardon, j'ai eu un trou de mémoire. Toujours. Dieu, si tu cries, il te délivre. Peut-être pas de l'ennemi ambiant, mais il va te délivrer là. Pour que même en pays de la captivité, dans ce règne de ténèbres dans lequel nous sommes, nous puissions vivre en affranchi, en victorieux. Alléluia ! Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Mais vas-tu t'engager ? Je prends quatre étapes de ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. À ce moment précis, après cette révélation de l'Éternel, Genèse 28, verset 18, Jacob se leva. Il y a une action. Jacob n'est pas resté en mode grasse mat boudeuse d'un adolescent qui n'a pas envie d'aller en cours. Désolé les ados. Jacob n'est pas resté allongé, il a dû se lever. Ces mêmes paroles dans la bouche de Jésus face au paralytique, face à la mort, face à celui qui était paralysé des jambes. Lève-toi, prends ton lit et marche, lève-toi. Tu as besoin de prendre position. Si Dieu est là, et tu l'as dit, quasiment 100% des mains se sont levées en disant « Dieu est ici ». Il faut que tu te lèves dans ta situation, qu'importe laquelle. Lève-toi, prends position. Lève-toi, ne reste pas affalé, allongé dans une lassitude à cause de l'épreuve, à cause du ronronnement doux, non pas d'un Airbus qui t'amènerait jusqu'au bout du monde, mais cette lassitude de cette vie qui t'a bercé, qui t'a endormi. Ah, le diable, il ne va pas venir te bousculer si tu dors déjà. Il va te chanter une belle berceuse. C'est bien, continue. Mais Dieu est là et il te dit, lève-toi. Dieu est là. Il faut que tu passes du régime horizontal au régime vertical. Tu dois reconnecter. Ce n'est pas un pont que Dieu a donné à Jacob en rêve. Il lui a montré une échelle. Quelle est la place d'une échelle ? Quel est le positionnement, la bonne position d'une échelle ? Horizontale ? Verticale ? Jacob devait prendre le même exemple, se relever et commencer à adorer. Sa situation n'avait pas changé. Il était toujours en menace de mort. Son frère avait promis et juré de le tuer. Mais il s'est levé dans sa situation, au sein des ténèbres. Au sein même de ce crépuscule qui était là, il s'est levé et il l'a fait par la foi. Est-ce que tu vas réagir par la foi sans que rien n'ait... J'ai rien ressenti ce matin. C'est pas grave. Tu n'as pas besoin de ressentir, tu as besoin de vivre. Tu as besoin de répondre par la foi. Tu as besoin de te lever. Parce que la deuxième étape dans la vie de Jacob, après cette levée de bon matin, c'est de réaliser que la pierre était couchée. Cette pierre qui était son oreiller à mémoire de forme. Était à la position horizontale. Vous savez quel est pourquoi ce rocher il est important ? Et cette pierre, elle est importante. Parce qu'elle nous parle de Jésus. Et parfois Jésus, et je m'adresse aux familles, on est tous dans une famille, même seul. On est toujours le fils de quelqu'un. Combien de foyers chrétiens j'ai vus avec la pierre renversée ? Ou mis de côté ? On est comme affalé sur Jésus, en disant, moi, dans tous les cas, il se débrouille, il fera ce qu'il... De toute façon, moi, je crois en Jésus, Jésus est dans ma maison. Oui, mais Jésus a été renversé comme ce monument. Jésus est mis de côté, comme cette pierre, allongée. Quel est le réflexe de Jacob ? Il se leva et prit la pierre dont il avait fait son oreiller et en fit un monument. Il va redresser la pierre, la placer comme lui-même dans le bon axe. De l'horizontale, il va dresser la pierre en verticale, selon l'image qu'il avait reçue de ce Dieu qui envoie des anges faire des allers-retours pour prendre soin de toi. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Dieu a envoyé son esprit. Il est venu sur toi, il est venu en toi et il veut faire ses allers-retours permanents. Parce que si Dieu est là, il faut que tu saches que les choses doivent être rétablies. Si Jésus n'est pas au centre de ta maison, pas au centre de ton quotidien, tu es en danger de mort. C'est peut-être pas ton frère qui en veut à ta vie physique, mais on a tous un ennemi commun qui en veut à ton âme et qui voudra te traîner en te berçant d'illusions, en disant « mais de toute façon, la pierre, elle est là, tout va bien. Ben, » Regarde, Jésus, il est... Ouais, c'est ce tiroir-là, ok. Est-ce que ta Bible prend la poussière ? Est-ce que ta louange est grippée ? Il y a une pierre qui doit être restaurée. Il y a ce caillou qui doit être replacé dans son axe. Un axe vertical. Parce que si Jésus est debout dans nos foyers, il crée ce pont entre Dieu et nous. Si Jésus est au milieu bien debout dans sa stature de victorieux, il n'est plus dans cette position couchée, soit dans la mangeoire, soit dans le tombeau. Jésus est debout. Il reviendra, son épée nue à la main, son sceptre à la main. Il est le victorieux. Il est le victorieux. Je sais qu'on arrive après, pas loin de Noël, et l'image de Jésus, c'est un petit Jésus dans une crèche. Et c'est la seule image qu'on peut avoir. C'est pas l'image que je veux vivre. C'est pas l'image que j'ai de mon Jésus. Mon Jésus, c'est le général de l'Éternel des armées qui va revenir. C'est le Jésus qui revient chercher son Église. C'est celui qui viendra pour juger nos actions, mais venir célébrer les fêtes de la noce de l'agneau. Et on va célébrer une fête de la victoire de Jésus. Et nous devons prophétiquement et par la foi la vivre aussi. Est-ce que Jésus est au cœur ? Au cœur de ta vie, au cœur de ton foyer. Est-ce que dans ton couple, c'est Jésus qui fait le pont par ce monument ? Je ne suis pas en train de prôner des images taillées. Attention, ce ne sont que des images spirituelles. N'allez pas prendre une pierre de votre jardin et la mettre au milieu de votre foyer. Je préfère faire une petite parenthèse. Non, 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 Jésus, il n'a pas besoin de croix dans la maison, d'une Bible sur la table du salon pour dire, voilà, Jésus, c'est bon, il est au milieu. Pasteur, regardez. Non, pas besoin. Non, non, non. Jésus, quand il est au milieu de notre maison, ben, c'est comme Jacob. Jacob, il vivait sans Dieu. Il vivait avec le Dieu de ses parents. À partir de ce moment-là, sa vie commence. Sa nouvelle vie commence. Il va s'engager. Regardez. Il versa de l'huile sur cette pierre, au sommet de la pierre. Et il appela cet endroit Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Et Jacob fit ce vœu. On les lit ensemble ? Que ça soit ton vœu ce matin. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout. T'es-tu engagé publiquement à ce que Jésus soit au milieu de ta maison ? Au milieu de ton quotidien. Cette huile, ce n'était pas n'importe quoi. Cette huile, elle vient sceller, c'est un témoignage public. Cette pierre, elle était laissée là, à Bethel. Il n'est pas parti avec, sous le bras. Elle a marqué quelque chose de public. Et les gens de Luz ont vu qu'ici, il y avait eu un changement. Ici, en ce lieu, il y avait un avant et il y a eu surtout un après. Vous avez vu Jacob ? Il n'a pas tout compris. Hein. C'est le démarrage. Hein. Je m'adresse aux futurs baptisés. C'est le démarrage, le baptême. Démarrer avec Jésus, on ne comprend pas tout. Et parfois, on met des conditions à Dieu. Mais ces si ont été remportés par Jésus à la croix. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, je vous donnerai le pain et les habits. Alléluia, Jésus n'a-t-il pas dit cela ? si on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Jésus a tout accompli. Ces conditions de Jacob ont été accomplies en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous pouvons vivre cet accompagnement et déclarer « Dieu sera mon Dieu ». Est-ce que Jésus est ton Dieu ? Ouais. Est-ce que ça se voit ? Est-ce que tout le monde le sait ? Est-ce que tu ne te caches pas derrière ta timidité, ta gêne, qui est au final de la honte du nom de l'Éternel ? Un moment, il faut s'engager publiquement et en versant cette huile. Et cette huile était marquée d'un sceau. L'huile, c'était la consécration. Vous savez, cette huile était sur les rois, sur les prophètes, sur les sacrificateurs. Cette huile, c'était pour estampiller. Ça appartient à Dieu. Et ma vie appartient à Dieu. Est-ce que là où tu vis, là où tu es, tu as déclaré publiquement ton appartenance à Christ ? Parce que c'est comme le fruit de la repentance. Hein. On est censé tous y goûter. Si ma vie a changé, ça doit se voir. Alléluia. Si mon caractère, j'ai confié à Dieu, il doit s'améliorer. Je m'adresse au caractère fort. Alléluia. Est-ce que notre caractère s'est amélioré ? Alléluia. Ma femme dit Amen. Elle n'a pas dit Amen, dommage. Priez pour votre pasteur. Mais le quatrième acte que Jacob pose, il va proclamer, faire un vœu et s'engager en concret. Je suis désolé de parler de ça, mais dire Jésus c'est mon sauveur, ça doit se voir dans mon quotidien. Et regardez sa réaction. Tu peux laisser la diapo d'avant. Je donnerai la dîme de tout. Alors bien sûr, là, ça s'adresse à la dîme financière. Et c'est sûr, je fais une petite parenthèse, ce n'est pas les miettes du fin de mois que Dieu veut. C'est la primeur de ce que j'ai reçu de sa part. Parce que Dieu m'a déjà tout donné. L'or et l'argent lui appartiennent. Je ferme la parenthèse. Mais la dîme, ce n'est pas la dîme seulement de tout, de tout mon argent. C'est la dîme de tout ce que je suis. La dîme de mon temps, la dîme de mon énergie, la dîme de ma santé. Est-ce que mes projets, mes passions sont pour le Christ ? Je donnerai ma dîme de tout. Suivre Jésus, c'est engageant et exigeant. Et je te pose la question, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Ta santé ? Tu la dois au Seigneur. Le temps qu'il te prête sur la terre ? T'as combien ? 40, 60, 80 ans ? Tout ça, c'est entre les mains de Dieu. Il t'offre du temps. Ça doit lui appartenir au moins la dîme. Alléluia. Et la dîme, elle vient au début, hein. Elle vient jamais à la fin. Sinon, ça s'appelle un pourboire. Je vous laisse avec cette image. Mais Jacob, c'est que le début de sa nouvelle vie. Il a eu besoin de comprendre plein de choses. Il a allé chez Laban, il a fait des tractations, il a éprouvé Dieu. Dieu, il est patient et il est bon. Alléluia. Mais il a vu dans le cœur de Jacob quelque chose de pas réglé. Et vous savez, cette première histoire qu'on a lue, elle commence par arriver en un certain endroit. Dans le deuxième passage qu'on va lire, et qui va nous parler de l'empreinte de sa transformation, il dit, et ça commence par « Jacob resta seul ». Punaise, encore une fois, il est seul. Parfois, dans la solitude, c'est là où Dieu veut travailler. Alléluia. On déteste la solitude, on déteste le silence. Pourtant, c'est là où Dieu veut parler. Amen. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il y avait un lieu inconnu. Maintenant, c'est une personne inconnue. Vous croyez qu'elle est si inconnue que ça ? Jacob resta seul alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. C'est pas marqué, mais il tomba à terre. Essayez de tenir debout avec une hanche déboîtée. Certains peuvent en témoigner, j'imagine. Vous ne restez pas debout. Vous tombez à terre. Vous vous écroulez. Mais dans sa douleur, dans sa limite, dans son désespoir de cette lutte qu'il ne pouvait remporter. Rappelez-vous, Jacob est un combattant, un arnaqueur professionnel, un stratège hors du commun. Mais là, il ne peut résister face à cette puissance et cette autorité. c'est l'homme inconnu qui aura le dernier mot. Lorsqu'il sera à terre, cet homme lui dira « Mais laisse-moi partir car l'aurore se lève. » Dans ce désarroi, cette solitude, cette souffrance, cette douleur, voici ce que dira Jacob. Diapo d'après. Diapo d'après. Merci. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Est-ce que ce matin tu as dit cela au Seigneur ? Est-ce que tu es venu au milieu de ton chaos en disant « Seigneur, je ne veux pas quitter ce lieu, là où tu es » et partir comme si c'était normal de continuer une vie comme ça. Il y a un avant et il y a un après. Si je viens vers Dieu, il doit y avoir un avant et il doit y avoir un après. Je dois être venu à la repentance, je dois être venu à la réconciliation, je dois être venu à un engagement, je dois être venu et surtout, et c'est le fond du travail de Dieu dans notre quotidien, à une transformation. Mais il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Imaginez tout ça empreint de larmes, de souffrance. Il confesse son nom. Rappelez-vous, Jacob, ce que ça veut dire. Celui qui saisit, celui qui attrape par la force, celui qui supplante, qui veut dominer, qui veut prendre autorité. Cet homme qui l'a mis par terre, lui demande de confesser ses limites, de confesser son côté charnel, de lui confesser ce qu'il a revendiqué depuis tant d'années. Je dépeins le tableau. Hein. Jacob, c'est vrai qu'il est riche à ce moment-là, mais c'est la seule chose qu'il a. Famille dysfonctionnelle, foyer dysfonctionnel, parentalité dysfonctionnelle, on verra par la suite. Enfin, je passe ce matin, mais vous pourrez le lire. Il n'y a rien qui va, si ce n'est les comptes en banque. C'est pas mal, hein. Mais il sait que ce n'est pas suffisant, le compte en banque. Et à ce moment-là, il a compris que son orgueil devait être terrassé dans un face-à-face avec Dieu. Et l'orgueil, je suis désolé de le dire pour ceux qui seraient trop humbles, l'orgueil nous touche tous. L'orgueil, on est 100% concernés. 100% de cette salle, vous êtes concernés. Je suis concerné. Par l'orgueil. L'orgueil est omniprésent dans l'être humain. L'orgueil, vous savez, c'est pas forcément se sentir supérieur d'une autre personne. Ça, c'est l'orgueil, le haut de l'iceberg. L'orgueil, c'est avant tout résister à Dieu quand il veut nous parler et nous conduire. Ou mener une vie sans Dieu. Ou d'un Dieu accessoire et secondaire. Ça, c'est l'orgueil que Dieu vomit. Auquel Dieu résiste. Comme Jacob, nous sommes frappés ce matin par sa parole qui veut nous faire plier le genou. Jacob n'a jamais fléchi devant quiconque. Ce jour-là, il va s'effondrer de sa masse et tomber à terre. Qui ce matin aurait besoin de fléchir le genou devant Dieu ? Quelle résistance opposes-tu à Dieu ? Est-ce dans la critique ? Est-ce dans l'amertume ? Est-ce dans le paraître ? Est-ce dans l'hypocrisie ? Quelle résistance offres-tu à Dieu ? Le Saint-Esprit travaille nos cœurs pour notre perfection, pour nous amener plus loin, pour nous faire voir d'autres choses. N'est-ce pas le Dieu que nous avons mis en boîte, que nous voyons agir aujourd'hui ? Combien de malades ? Combien de délivrances ? Combien de conversions ? Si mon peuple s'humilie et prie, alors j'ouvrirai les cieux. Voici la mesure de Dieu. Le réveil, il est pour aujourd'hui, il n'est pas pour demain. Mais il est au profit et il sera au bénéfice de notre repentance, de si nous plions le genou ou si nous laissons Dieu nous faire plier le genou par les circonstances. Vous savez, dans le nord de l'Inde, au Gujarat, en Chine, en Corée du Nord, en Irak, l'Église là-bas a besoin de nous donner des leçons. Mais peut-être qu'ils ont appris ces leçons dans la persécution. Et je le dis assez souvent, mais je le redis dans ce contexte de ce passage-là. Allons-nous attendre les circonstances qui vont nous mettre à genoux ou allons-nous le faire volontairement en nous levant comme Jacob de bon matin, en restaurant l'autel, en oignant d'huile cette confession publique et en nous engageant et en laissant Dieu nous transformer ? Parce que ce qui est sûr, c'est que ce matin-là, Jacob, ce soir-là, Jacob, et jusqu'au matin, il a lutté. La blessure a fait plier le genou de Jacob. Mais la blessure n'est pas la finalité. Qu'est-ce qui te fait souffrir dans ta vie ? Qu'est-ce que Dieu a permis que tu lui reproches ? Tu te concentres sur ça. Alors que Jacob s'est concentré sur « Je ne te laisserai partir avant que tu ne m'aies béni. » Jacob, peut-être, dans le fond intérieur, il disait « Si tu peux remettre ma hanche correctement. » Je souffre terriblement. Tu crois que Dieu ne le sait pas ? Mais peut-être que ce n'est pas ça que Dieu veut changer. Ce n'est pas ton corps physique. C'est peut-être ton cœur, tes pensées, la langue, ce que tu fais de tes mains. Peut-être que c'est ça que dont Dieu veut te bénir ce matin. Et dans sa douceur, il va simplement mettre un coup sur la hanche pour nous faire plier le genou devant lui. Et je vous dis clairement, ce message, il me parle premièrement à moi, qui ai besoin volontairement de mettre le genou à terre devant Dieu et le laisser me façonner, le laisser me diriger, le laisser me rappeler qu'il a raison et que moi non. Es-tu ce matin déterminé à être béni ? C'est simple, hein ? Si tu veux rien recevoir, t'inquiète pas, Dieu n'enfoncera pas la porte. Mais si tu es déterminé à être béni, si tu es comme nous dit le Matthieu 11, un violent qui veut s'emparer du royaume des cieux, alors le ciel est pour toi. La bénédiction de Dieu est pour toi. Sa mesure, elle est bien là, elle est bien tassée et suffisante pour te bénir et transformer ta vie. Et je termine. Et c'est là ma conclusion. Au moment de cette histoire, Jacob est toujours par terre. Oui, il a dû confesser ses limites et son plafond de verre. Il a dû déclarer son nom publiquement devant l'Éternel comme une déclaration de repentance. Il a dû dire « Je m'appelle Jacob, en effet. » Ton nom, et ça c'est pour ta vie, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Est-ce que là, Dieu lui dit, c'est bien, continue ? Non. Il lui dit, tu as lutté toute ta vie contre moi et contre les hommes. Maintenant, aujourd'hui, là, par terre, avec ta hanche complètement désaxée, dans la douleur et la souffrance, dans la confession de ta repentance en confessant ton nom, c'est là où tu es victorieux. C'est là ce que Dieu dit. Tu t'appelleras Israël parce que maintenant, ton identité a changé, ta façon de penser a changé, ta façon de parler a changé. Tout a changé, en même temps rien n'avait changé. La douleur est toujours là. Son frère en veut toujours à sa vie et il arrive avec 300 hommes. Il a perdu ses femmes, ses enfants, ses biens. Il a tout envoyé en sacrifice. Il n'a plus rien. Et pourtant tout vient de changer. C'est un genou à terre où tout a changé. C'est en confessant ses limites qu'il a changé. C'est à ce moment-là où le nouveau départ, l'approfondissement de cette vie nouvelle avec Dieu a pris forme. Concrètement, Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Ah, on a besoin d'aller plus loin avec le Seigneur, hein. On est plein de questions. Hein. Mais qui es-tu ? Il savait très bien qui il était. Il répondit, mais pourquoi me demandes-tu mon nom ? Dans d'autres textes où il y a ces mêmes rencontres, Manoac par exemple va dire, mais donne-moi ton nom. Mais pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. Oui, le nom de Dieu est grand. Il est tout puissant. Pourquoi demandes-tu des précisions alors que tu vis en face à face avec Dieu ? Ce matin, le Saint-Esprit travaille ton cœur. Commence à le louer. Commence à l'adorer. Pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il le bénit. Là, Jacob appela cet endroit Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se leva lorsqu'il passa à Péniel. Il boitait de la hanche. Désolé. La bénédiction peut-être ne sera pas extérieure, mais la bénédiction, elle veut d'abord être intérieure. Et j'illustre ma conclusion par ceci. Jacob est à terre. Jacob, vous le savez, de sa fonction, il est berger. Il avait un bâton. À terre, il est par terre. Ses forces lui manquent. Il boit toujours de la hanche après cette rencontre. À votre avis, comment il a fait pour se relever ? Et comment il a fait pour marcher par la suite toute sa vie ? Aujourd'hui, je marche sans rien. Mais si je m'effondre, incapable de prendre dans mes forces des membres inférieurs, comment vais-je me relever, si ce n'est en trouvant appui sur une tierce personne, un objet ? Ce jour-là, Jacob a appris à compter sur Dieu en prenant appui sur son bâton. Et ce bâton, elle pointe la croix. Ce bâton, c'est cette perche élevée quand Moïse l'a dans la main pour que tout le peuple soit sauvé de cette morsure. Ce bâton, c'est Jean 3, verset 16. Car celui qui croit, il ne mourra pas, mais il aura la vie. Si tu prends appui pour te relever de cette blessure qui est mortelle à tes yeux, si tu apprends à compter sur la croix seulement, crois seulement, dira Jésus. Si tu t'appuies que sur la croix pour te relever, c'est aussi pour demain ne marcher qu'en prenant appui sur la croix. Ah, c'est sûr que la démarche de Jacob devait être un peu moins élégante qu'avant. L'apparence de sa foi en avait pris un coup, mais il prenait appui sur l'essentiel et la seule chose qui lui donnait les forces, l'œuvre de la croix. Eh, Jésus n'y est plus. Et le tombeau, vous savez quoi ? Il est vide. Jésus est ressuscité. Mais cette œuvre, elle demeure. Cette œuvre, elle est là pour toi, pour te rappeler que Jésus doit être la seule force sur laquelle tu dois t'appuyer et les seules forces sur lesquelles tu dois avancer. Jésus doit tracer ton itinéraire. Jésus doit être, par l'œuvre de la croix, te dire, il y avait une vie avant, maintenant vis dans cette nouveauté. Vis dans cette transformation. Oui, il y aura des stigmates. Oui, il y aura des souffrances. Oui, il y aura des réalités qui vont changer à l'extérieur et peut-être pas appréciées de tous. Imaginez Jacob en revenant dans sa famille. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été béni, alléluia. Ah ben on dirait pas quand même. Hein. Mais je suis béni, appelez-moi Israël. Ça va Jacob ? La douleur te fait divaguer ? Il a été béni. Mais les autres ont trouvé ça certainement très bizarre. Mais Dieu était au contrôle. Et sa rencontre avec son frère sera d'autant plus bizarre qu'il va être béni d'une bénédiction qu'il n'était pas prêt à imaginer et à recevoir. Je te pose la question. Est-ce que comme Jacob, tu vas dire, c'est sûr, le Seigneur était ici, mais je ne le savais pas. C'est sûr, Jésus, en fait, il est avec moi au travail. C'est sûr, Jésus, il est avec moi dans ma famille. C'est sûr, mais je vis comme si je ne le savais pas. Et si aujourd'hui, on prenait la décision de replacer Jésus dans son axe, au centre, et comme seul appui. J'invite l'équipe de louange à se replacer. Aujourd'hui, tu dois passer de Bethel à Péniel. Ouais, tu peux laisser la fin, ouais. C'est merci Chantal. Aujourd'hui, tu dois réaliser que le Seigneur est ici. Et que s'il vient, et ce matin, il y a peut-être quelqu'un qui va venir comme une rencontre avec Dieu. Alléluia ! Que Dieu bénisse toutes ces rencontres avec le divin. Alléluia ! Il y a une nouvelle vie qui s'attend à toi, mais c'est que le début. Alléluia ! La rencontre doit être une vraie rencontre avec Dieu, découle et va vers un engagement de ta part. Vas-tu lui offrir la dîme de tout ? Et replacer Jésus au milieu. Mais l'étape d'après, c'est Péniel. Qui a envie d'aller à Péniel ? Qui voudrait vivre Péniel ce matin ? Certains vont dire, moi je veux vivre Bethel. Alléluia ! On a besoin... Avant Péniel, il y a Bethel. Il faut venir dans la maison de Dieu, là où Dieu demeure. Et ta vie doit appeler la présence de Dieu au quotidien. Qui voudrait vivre Bethel ? Qui voudrait vivre Péniel ? Je vais vous laisser répondre par le cantique que nous allons interpréter. Je vais vous laisser vous placer devant Dieu et réagir par la prière, réagir par un positionnement qui va être et public, peut-être en louant pour la première fois à voix haute. Jésus, je veux vivre Bethel, je veux vivre Péniel. Qu'importe la formulation que tu dois prendre position, ça doit se voir publiquement. Tu dois quitter ce lieu, non pas comme tu es venu, tu dois partir de ce lieu complètement changé, transformé. Ton nom même doit changer. Ton identité doit être transformée. Est-ce que ce matin, il y en a qui veulent vivre Bethel, puis Péniel ? Et on va le faire de la plus belle des manières, cet appel. Et bien sûr, le pain et le vin sont là pour nous rappeler de l'œuvre de la croix. Et on l'a dit, hein, je ne veux que m'appuyer sur Jésus. Toutes les autres béquilles, je veux les faire disparaître. Mes forces physiques, je veux les mettre de côté. Je veux m'appuyer sur Jésus. On va prendre ce pain et ce vin. Et en prenant ce pain et ce vin, tu passes de Bethel à Péniel. Et tu vas le déclarer pour ta vie, pour ton couple, tes enfants, ton foyer, ta famille. Il faut que tu le déclares. Il faut que tu prennes position. Sinon, toute ta vie, tu seras en lutte et dans cette souffrance. Alors que Dieu te dit, mais appuie-toi sur le bâton. L'œuvre est suffisante. Elle est tout accomplie. Qui le veut le vivre ce matin? Vous tous qui avez envie de vivre Bethel ou Peniel, ou de Bethel à Peniel, levez-vous à votre place en réponse à ce message.